Vous écoutez Dutrisac, Cube Radio.
Alexandre Dubé qui est avec nous pour faire le tour des nouvelles. Monsieur Dubé, bonjour.
Salut Benoît.
Il y a le nombre de nouveaux cas, ça inspire rien de bon.
C'est le deuxième plus haut total qu'on a connu là, en l'espace de quelques jours. Là, on est remonté à 582 cas. Un décès de plus, 6 hospitalisations de plus. Donc, tu vois que la tendance au niveau des hospitalisations là, depuis le début de la semaine, ça se poursuit. C'est pas des gros nombres, c'est des petits nombres, mais quand tu les mets bout à bout quand même, et un de plus aux soins intensifs. Personnellement, Benoît, là, moi, j'ai hâte de voir le point de presse du ministre de la Santé, Christian Dubé, à 13h. Parce que quand on décortique, quand on va dans les régions, dans les 5 régions qui sont dans le orange, tu vois la tendance à Montréal qui est en hausse. 247 cas de plus à Montréal. Québec, 103 cas de plus. Ça, c'est un record pour la capitale nationale. Puis quand tu remets ça sur la moyenne par million, là, on va dire qu'à Québec, là, c'est très, très, très élevé. Est-ce qu'il y aura éventuellement d'autres décisions qui seront prises pour la région de la capitale nationale? Écoute.
Dis ça, Alexandre, je pense que des fois, il faut l'expliquer. Là, Christian Dubé, en tout cas, la santé publique disait 20 cas par million, on gère la patente. Là. C'est, on n'est pas trop en train de déraper. Mais là, on doit être rendu à 50 cas par million?
Ben, c'est que, tu vois, à l'échelle provinciale, avec le bilan qu'on a, on était à peu près à 50 cas par million. Mais à l'échelle provinciale, quand tu décortiques, quand tu vas à Québec, c'est plus haut que ça. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres décisions qui seront prises au cours des prochains jours? J'ai sérieusement hâte de voir. Pour Chaudière-Appalaches, la région limitrophe, ça diminue quand même, mais 24 nouveaux cas. Et en Outaouais, ça augmente avec 36. On est sur une cadence, encore une fois, on teste beaucoup, là, 27 000 tests, mais les chiffres sont là, puis on a eu la confirmation en début de semaine qu'on était effectivement en deuxième vague.
Bon, il y a eu un rapport de la protectrice du citoyen.
C'est vraiment ce qui retient l'attention aujourd'hui, la situation notamment dans les résidences pour aînés. On sait que ça a été épouvantable ce qui s'est passé pendant la première vague. Il y a des milliers d'aînés qui sont morts dans des circonstances inhumaines, inacceptable. Et là, ben, les lacunes majeures, qui étaient quand même déjà bien connues, là, dans les CHSLD. On s'est pas réveillé tout d'un coup pendant la pandémie en disant, ah, ben, il nous manque du personnel. Ah, ben, on amène du personnel en zone chaude jusqu'en zone froide. Il y a plus de patrons sur place. Ça, c'est un vestige de la réforme Barrette, là, dans les grands CIUS, les 6, où là, on concentre la direction au top de la pyramide, mais sur le plancher, il ne restait plus personne. Alors ça nous a pété d'en face pendant la pandémie, et ultimement, c'est ce qui ressort de ce rapport de la protectrice du citoyen, Marie Rinfret. C'est tombé cet avant-midi. Le gouvernement a annoncé depuis, on le sait, des hausses de salaire, a embauché davantage de préposés, mais quand même, la protectrice notait qu'il manquait cruellement de préposés dans l'ensemble du Québec et dans tous les types de ressources, que ce soit les résidences privées, les ressources intermédiaires, les CHSLD publics, ceux qui sont privés. Et puis là-dedans, on a des témoignages épouvantables. Je lisais des passages là où des usagers étaient levés du lit vers midi, faute de personnel. Plusieurs de ces recommandations, entre autres, ont été ignorées depuis plusieurs années, sont restées complètement indifférents. Et là, on a vu ce qui s'est passé. Par contre, dans son rapport, Benoît, et ça, je trouve ça intéressant, la protectrice du citoyen aussi a voulu saluer le dévouement, le travail colossal des membres du personnel soignant dans les CHSLD. Là, il y en a plusieurs vraiment là, qui font des pieds et des mains à tous les jours. Et dans son rapport, il y a une histoire quand même qui est touchante. C'est une résidente, à un moment donné, qui commence à s'agiter quand sa culotte d'incontinence était souillée, devenait agressive à l'égard du personnel. Mais il y avait juste une préposée qui réussissait toujours à la calmer en prenant le temps de lui faire entendre la musique qu'elle aimait, en lui confiant une poupée. Tu vois, c'est un service personnalisé, ce sont des soins humains, personnalisés, et ça, c'est important de saluer la patience, l'humanité, puis la compétence des travailleurs qui soignent les personnes âgées, parce que c'est fait dans des conditions extrêmement, extrêmement difficiles. Puis Benoît, honnêtement, là, moi, je t'invite à écouter JE ce soir, à 21h. On a vu quelques extraits là, qui ont circulé depuis le début de la matinée. Là. C'est un reportage qui s'appelle « Maltraitance », qui rencontre des conditions de travail difficiles des employés des CHSLD, des histoires déchirantes de familles qui ont vu leurs proches mourir dans dans des circonstances complètement inhumaines. Écoute, c'est à peu près 4600 personnes qui sont mortes dans nos CHSLD au cours des derniers mois pendant la première pandémie. C'est à 21h ce soir, JE.
Mais une fois que tout ça s'est dit, Alexandre, une fois que tout ça est dit, qui est responsable? Qui est redevable? Y a-t-il une reddition de compte? Y a-t-il quelqu'un qui va perdre sa job? Y a-t-il une seule personne au niveau des cadres qui va perdre sa job? Que ça soit à Dorval, que ça soit à Sainte-Dorothée, à Résidence Aéron, y a-t-il quelqu'un qui va perdre quelque chose dans tout ça?
Ouais, mais dans certains cas, c'était des résidences privées. D'autres, c'était public, t'as raison. Puis tu fais référence à ces deux-là.
Mais même privé, il est censé avoir des inspecteurs, là.
Absolument.
Il est censé avoir de la surveillance du traitement des personnes âgées.
Ah, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais ces deux-là ont fait les manchettes le printemps dernier en raison des éclosions qui ont fait des dizaines de victimes. Et là, il y a un autre rapport rendu public par le gouvernement qui parle de tous les problèmes de personnel qui ont engendré cette hécatombe-là dans les deux CHSLD. On apprend, entre autres, que la moitié du personnel manquait avant la pandémie. Alors, t'imagines quand la pandémie a frappé, à quel point les gens étaient débordés. On a souligné la négligence qui a mené au raté vécu dans ces deux CHSLD-là. Dans le cas de Aaron, là, à Dorval, où il y a 38 résidents qui sont morts de la COVID, le rapport souligne que le soir du 29 mars, il y avait juste 3 employés en poste pour 133 résidents. 3 pour 133, ça n'a pas de maudit bon sens. Pour le CHSLD Sainte-Dorothée à Laval, ils ont perdu le contrôle carrément quand le virus a frappé, et rapidement, le nombre d'employés infectés est monté en flèche, et là, ils ne pouvaient plus travailler. Tu parlais des gens qui sont imputables. Là, maintenant, les directeurs de CHSLD, puisque là, il y a un directeur dans chaque établissement, ils sont imputables. Est-ce que ça aurait dû être fait avant? Est-ce que ce sont les contre-coups de la réforme Barrette? On ne l'a pas entendu encore,
l'ancien
ministre de la Santé,
qui est tranquille. Là.
Ouais. Je surveillais son compte Twitter. C'est assez tranquille là, pour l'instant, n'a toujours pas réagi sur Twitter. On verra bien. Lui qui aimait beaucoup s'exprimer là, pendant la pandémie.
Ah, et faire la leçon à tout un chacun, puis jouer à l'expert, regarde, c'est ce que ça a donné. Tu sais, je te ramène aussi au cas de l'urgence de Sainte-Agathe-des-Monts, le docteur Landry à qui on parle, puis il dit là, ça fait 4 mois j'attends pour une imprimante. Pourquoi? La centralisation des services. Je sais plus à qui parler pour faire changer l'imprimante. Finalement, il y en a eu une, mais là, ça a pris 4 mois. Ça, c'est la centralisation, l'œuvre de Gaétan Barrette. On le félicite.
Mais j'espère que leur fax fonctionne, par contre.
Ah, hein, ça.
Pour les cas de COVID.
Ouais.
On leur souhaite un bon fax fonctionnel de 2020.
Ouais, pour avoir les résultats du mois de juillet.
Oui.
En face. Le local chez Jean Coussin avant qu'on se quitte, Alexandre.
Ouais, un petit mot là-dessus. 180 employés syndiqués de l'entrepôt central de Jean Coutu à Varennes, à Montérégie, qui ont appris ce matin, en entrant au travail, qu'ils étaient mis en lock-out. Bon, selon le syndicat, l'aspect financier n'est pas en cause dans cette histoire-là. Ce qui se passe, c'est que les employés craignent plutôt que l'arrivée de Brunet dans la famille de Jean Coutu pousse l'employeur à faire appel à de la sous-traitance puis aux agences de placement. Bon, ça, c'est la version du syndicat. Le syndicat qui se dit prêt quand même à négocier avec l'employeur pour régler le conflit. Mais là, hier, après une grève de 24 heures, l'employeur s'est dit déçu de voir certains syndiqués déserter leur poste de travail en insistant pour dire que leurs conditions de travail sont déjà très avantageuses. Alors, tu vois, on a deux versions. Mais reste à voir là, la suite des choses dans ce dossier-là. Mais le résultat net, c'est qu'il y en a 680 qui ont été mis en lock-out ce matin.
Mais là, ça veut pas dire que les Jean Coutu sont fermés.
Ben non. Ça, c'est au centre de distribution. Tu vas pouvoir aller chercher tes
pilules.
Tes petites choses, Benoît.
Je vais aller chercher mes pilules parce que je vais être malade. Je prends pas mes pilules. Ça, c'est les joies de vieillir. Bon, on se laisse là-dessus, M. Dubé, puis on se reparle demain.
À demain, Benoît.
Salut.